Bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour un peu spécial. Alors je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité du monde évangélique d'un point de vue général. Vous le savez, notre église est affiliée au CNEF, Conseil National des Évangiles de France. Et aujourd'hui, avec le CNEF, il se passe un truc assez important, assez gros. Partout en France, dans de nombreux départements, alors malheureusement pas celui des Yvelines, mais beaucoup d'églises évangéliques rattachées au CNEF se sont unies pour faire un culte en commun, aujourd'hui même. Et donc il y a beaucoup d'églises qui nous entourent, qui se sont réunies et qui font des sortes de méga-cultes, où pour certains ils sont plus de 1000, et se réunissent pour fêter ensemble une unité. Alors, vous l'aurez compris, ce matin, je vais parler de l'unité des chrétiens, car je crois que c'est un thème tout à fait approprié avec notre actualité. Un thème qui n'est pas simple, parce que quand on parle d'unité des chrétiens, on va avoir deux types de personnes. Ceux qui vont plutôt y être favorables, c'est l'occasion de se rassembler, de se découvrir, de voir des têtes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, de faire connaissance avec certaines personnes. J'ai en tête notamment, il y a quelques années, quand je dirigeais un groupe de jeunes, de voir des jeunes découvrir d'autres jeunes de leur classe participer à ce type de réunion. « Ah mais attends, toi aussi, t'es dans une église évangélique ?»« Ah bah oui, tiens, c'est intéressant. » De faire des rencontres, ou alors, encore, d'avoir un culte qui change de l'ordinaire. Un culte différent, une autre manière de faire. Et puis de l'autre côté, on va avoir des gens un peu plus sceptiques, un peu plus mitigés. Ouh là là, oui, on peut faire l'unité, mais dans quelle mesure? Où est-ce qu'on place le curseur? Est-ce qu'on n'est pas en train de renier un peu nos principes et nos valeurs au profit d'une unité qui n'est finalement une unité que de façade? Ce thème m'a conduit à considérer une prière de notre Seigneur Jésus-Christ à ce sujet, la fameuse prière sacerdotale que l'on trouve en Jean chapitre 17. Alors, ce n'est pas une prière qu'on va voir en entier, évidemment parce qu'elle est assez longue, assez dense. On va seulement voir la dernière partie, celle qui parle de l'unité des croyants. Et à partir de cette prière, je nous propose de voir ensemble... Ah, Cyrilo m'avait dit que ça marcherait. Trois types d'unités, l'unité des disciples, une unité dans la gloire et enfin une unité dans la contemplation. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean pour lire les versets 20 à 23. Jean 17, versets 20 à 23. Alors c'est le Seigneur qui prie, hein. Ce n'est pas seulement pour eux, donc qui priaient juste avant pour ses disciples, que je te prie. C'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole, donc la parole des disciples. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et que moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. On va d'abord s'arrêter là. Dans cette troisième et dernière partie de la prière du Sauveur du monde, Jésus ne prie plus seulement pour ses disciples, mais il prie pour tous ceux qui croiront en lui grâce à la parole des premiers disciples. Et ce n'est pas anodin, car Jésus anticipe là le résultat de l'expansion de l'évangile. Ça signifie que le Seigneur Jésus a prié pour nous, qu'il a prié pour toi il y a 2000 ans. Dans sa prière, le Seigneur fait une demande. Il demande que ceux qui croiront en lui par la parole de ses disciples soient tous un, qu'ils soient unis. Comment ? Comme le Père est en le Fils et comme le Fils est en lui, que nous soyons tous un en lui. Pourquoi ? Pour que le monde croie que c'est Dieu le Père qui a envoyé son Fils. On a là toute une explication de cette prière, de l'objectif. Autrement dit, Jésus prie le Père pour notre unité à l'image de l'unité trinitaire, afin que celle que nous manifestons au monde soit un témoignage. Et quel témoignage ! Cette unité prouve que Jésus est bien l'envoyé de Dieu. Elle prouve que son message est authentique. Et enfin, elle témoigne de l'amour de Dieu. C'est un élément qu'on verra un peu plus tard. Voilà l'unité qui pousse le monde à dire « Je reconnais Christ en ses chrétiens, de même que l'on a reconnu le Père en Jésus-Christ. » Quelles que soient leurs origines, ces croyants seront unis sur la même base, parce qu'ils partagent la même nature dont ils portent les caractères. C'est ce que dit notamment l'apôtre Paul dans son épître aux Galates avec ce texte très connu. « Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. » Cette unité, elle est fondée sur une véritable ressemblance morale. Et ça, c'est important. Afin de refléter le caractère de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Jean dit dans sa première épître. 1 Jean 1, les versets 3 et 7. « Oui, ce que nous, donc les apôtres, avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. » On voit bien qu'en fait, le thème de l'unité, dans l'Écriture, ce n'est pas un petit thème. Hein. C'est un thème important, tellement important que le Seigneur Jésus en a même fait son sujet de prière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas la quantité des convertis qui amène le monde à croire. Ce n'est pas la masse. C'est la qualité de la vie des disciples. Pas la quantité, mais la qualité de la vie des disciples. Qualité dont nous avons parlé d'ailleurs la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, et qui vise à refléter la lumière du monde, notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, vous l'aurez compris, on ne parle pas ici de ceux qui se disent chrétiens, mais qui sont finalement plus influencés par le monde que par la parole de Dieu. Parole qui, je le rappelle, ferme la porte au compromis avec le monde. Il n'y a pas une voie du milieu. Hein. C'est soit on est au Seigneur, soit on n'est pas au Seigneur. Il n'y a pas de « je prends un peu des deux et j'essaye de créer un machin qui m'intéresse et qui m'arrange dans les deux sens ». Non. Soit on est au monde, soit on est à Christ. Revenons à l'unité. L'actualité nous montre sans cesse que le monde est si habitué aux conflits et aux divisions. Encore, on le constate même en France, hein, la politique en ce moment. Qu'il ne peut manquer de s'interroger en voyant des croyants qui sont, eux, vraiment unis. Car c'est une distinction que nous avons avec le reste de l'humanité et que nous devons marquer. Alors, c'est pas facile. Surtout quand de multiples positions idéologiques ou politiques viennent troubler cette unité. Car oui, gare à la fausse unité, celle qui est basée sur des points de vue convergents. De l'éthique, par exemple. On partage beaucoup de points éthiques avec nos amis catholiques. Et d'ailleurs, nous n'avons pas manqué de les défendre ensemble pour avoir plus de poids. Mais est-ce que c'est vraiment de cette unité de là dont parle le Seigneur ici ? Non. Parce qu'il est question de l'unité de la foi, l'unité de la communion fraternelle. Alors oui, on peut s'unir pour combattre ceux qui ne partagent pas les mêmes vues que nous. Mais cela ne signifie pas qu'on communie ensemble. Que penser aussi de nos divisions, celles qui amoindrissent le témoignage que nous devons porter dans le monde, et d'ailleurs dont le diable aime bien être l'instigateur. Vous savez, celui qui va semer le petit truc là de division et puis qui va finir par grossir, jusqu'à construire la séparation. Qui n'a jamais entendu « Ah, t'es protestant !» Les protestants, moi, j'y comprends rien. Il y a les luthériens, il y a les réformés, il y a les baptistes, il y a les évangéliques, il y a les pentecôtistes. En fait, on ne sait pas trop ce que vous êtes. Car chaque désaccord crée une nouvelle église. C'est difficile de témoigner de l'évangile en mettant en avant notre unité dans ces conditions. Oui, je le déplore. Beaucoup ont abandonné la parole apostolique comme fondement de notre foi et que l'unité est devenue impossible avec ces soi-disant chrétiens. Parce qu'on ne peut pas renier l'essence même de notre unité, la foi. Si on en renie le socle, comment l'unité peut-elle subsister ? L'unité ne peut être réellement vécue que dans le cadre de la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, envoyé par le Père pour le révéler, foi fondée sur la parole de Dieu consignée par les apôtres du Seigneur. Ça, c'est non négociable. N'oublions pas que notre Sauveur est mort pour rassembler, pour unir les enfants de Dieu dispersés. Jean chapitre 11, verset 52. Ce n'était pas seulement pour mon peuple que Jésus devait mourir. C'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les réunir en un seul peuple. C'est intéressant parce que quand on considère l'Église, j'ai remarqué qu'on, dans nos têtes, souvent, on va penser Église locale. Ah ben, quand on parle de mon Église, on parle de l'Église dans laquelle on va tous les dimanches. Mais on pense moins à l'Église universelle, le peuple de Dieu partout à travers le monde, et pas seulement ici, à Chambourcy. L'unité. Il s'agit là d'une vraie mission qu'il nous faut considérer, qu'il nous faut réaliser, qu'il nous faut maintenir. Celle de manifester notre unité au monde, afin qu'il croie que c'est Dieu le Père qui a envoyé son Fils Jésus-Christ pour se révéler. Tous ceux qui sont amenés à croire sont tous unis spirituellement. Ils sont un, afin que le monde croie que le Père a envoyé le Fils. Deuxième unité, l'unité dans la gloire. Nous l'avons vu. Il ne s'agit pas d'être unis avec le premier venu qui viendrait se déclarer chrétien. Car derrière ce terme chrétien, on peut mettre un peu tout maintenant. Je suis toujours très interpellé quand quelqu'un me dit « Ah, moi je suis chrétien aussi, mais je suis non pratiquant. » Est-ce que ça a du sens ? Être chrétien, c'est pas seulement avoir une identité religieuse. Être chrétien, c'est croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort à ma place pour me sauver de la juste colère de Dieu à l'égard de mon péché et qu'il est ressuscité pour ma justification. C'est ça être chrétien. Cette foi en Dieu Sauveur induit non seulement la reconnaissance, mais surtout, la soumission totale à sa seigneurie et une œuvre de transformation du croyant à l'image du Christ, œuvre de son Esprit Saint. Je parle ici de la sanctification. La gloire, elle désigne généralement la manifestation du caractère ou de la personne de Dieu dans un contexte de révélation. Au début de sa prière, que nous n'avons pas lue, mais au début du chapitre 17, Jésus demande au Père de faire éclater la gloire de celui qui l'a révélée, la gloire de Jésus-Christ. Ainsi, le Fils nous donne la gloire que le Père lui a donnée par notre union avec notre Sauveur, le Rédempteur du monde, lui qui a achevé son œuvre de révélation. Cette gloire du Fils, nous la reflétons de par notre transformation en son image par l'Esprit Saint. Ce chemin vers qui nous allons tous. Alors certes, on n'est pas tous au même niveau, au même degré de sanctification. Mais ce qui compte, ce n'est pas forcément là où nous en sommes, c'est le chemin qu'on prend. Oui, il y a des choses qui sont difficiles dans ma vie, mais grâce à l'œuvre de l'Esprit dans mon cœur, j'y travaille. Et un jour, avec l'aide du Seigneur, j'aurai réglé ceci, je réglerai cela. Puis d'autres ont déjà réglé et d'être règlent d'autres choses. Car la glorification, la sanctification totale et absolue, nous ne la réussirons qu'une fois ressuscités auprès de notre Seigneur. C'est ce dont parle Paul dans ce texte un peu technique de 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 7 à 18, que je vais lire en entier. C'est un peu long. Alors je ne l'ai pas affiché, mais n'hésitez pas à aller le chercher. 2 Corinthiens 3, je vais lire à partir du verset 7. Le ministère de Moïse au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été glorieux, au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire pourtant passagère dont rayonnait son visage. Vous avez peut-être tous en tête cet épisode incroyable. Mais alors, le ministère au service de l'Église ne serait-il pas bien plus glorieux encore ? En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu ? On peut même dire que ces gloires du passé perdent tout son éclat quand on la compare à la gloire présente, qui lui est bien supérieure. Car si ce qui est passager a été touché par la gloire, combien plus grande sera la gloire de ce qui demeure éternellement ? Cette espérance nous remplit d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher l'Israélite de voir la réalité vers laquelle tendait ce qui était passager. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre, aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent les livres de l'Ancienne Alliance, ce même voile demeure. Il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec Christ qu'il est levé. Aussi, parce que jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle ce texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Quel texte magistral sur la gloire que nous reflétons. Pas toujours quelque chose dont on prend conscience. Hein. Nous sommes porteurs de cette gloire. Et puisque nous sommes porteurs de cette gloire tous ensemble, nous la marquons dans l'unité. Encore une fois, l'unité en gloire elle témoigne de quelque chose. Elle témoigne que le Père a envoyé le Fils et que tous les croyants sont aimés du même amour que lui. La troisième unité est une unité de vision, celle de regarder à la source, la gloire divine et éternelle du Fils de Dieu, pour en tirer une vertu majeure et une composante de la relation trinitaire, j'ai nommé l'amour. Unité dans la contemplation. Revenons à Jean 17, à la prière du Seigneur, et lisons les derniers versets, versets 24 à 26. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux qui ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai à te faire connaître, pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux, et que je sois moi-même en eux. La contemplation peut parfois être considérée par les évangéliques comme l'apanage des catholiques. On connaît tous hein, les fameux ordres contemplatifs, etc. Pourtant, je crois que l'on devrait régulièrement s'arrêter dans notre routine quotidienne pour contempler le Seigneur et son œuvre dans nos vies et contempler son œuvre dans la vie de celle des autres. Il y a un lien là avec ce psaume très connu, « Arrêtez tout !» et sachez que moi je suis l'Éternel. Mais la contemplation que je vous propose ce matin n'est pas une contemplation passive. On en tire quelque chose pour que l'amour que le Père a témoigné au Fils soit en nous et que notre Seigneur et Sauveur soit aussi en nous. Le monde n'a pas vu Dieu révélé en Jésus, mais les disciples ont vu et ont cru que Dieu avait envoyé le Messie, son Fils bien-aimé. C'est ce que dit Jean au chapitre 1, versets 10 à 14. « Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un seul homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Jésus leur avait révélé le Père. Il a marché entièrement à la gloire de Dieu, dans une obéissance totale. Ses paroles et ses œuvres étaient celles du Père, et ils virent en Christ la représentation parfaite de celui qui l'avait envoyé. Mais ça ne s'arrête pas là. Si la révélation est achevée, ça continue encore aujourd'hui. Jésus continue de faire connaître le Père par le ministère du Saint-Esprit. Par la parole de Dieu, nous pouvons connaître Dieu et ce qu'il est. J'en ai encore eu un témoignage cette semaine. Quelqu'un qui me l'a raconté se reconnaîtra peut-être. Quand les hommes acceptent le Père tel qu'il est révélé par le Seigneur Jésus, ils deviennent aussi les objets particuliers de l'amour du Père. Car au cœur de la gloire dont va être réinvesti Dieu le Fils, se trouve l'amour. L'amour. Le Fils était uni au Père dans tout ce qu'il faisait et disait dans le monde. Par la suite, remplis de l'Esprit, les disciples partageaient la même vie, la même pensée, le même but que le Père et le Fils. En fait, ils ont été les premiers éléments de cette unité pour laquelle notre Seigneur prie. Et désormais, Elle se poursuit pour tous ceux qui ont reçu et accepté l'évangile. Autrement dit, l'unité revêt quelque chose de missionnel. Jésus-Christ a révélé Dieu le Père. Ses disciples ont révélé par l'Esprit Dieu le Fils. Et nous, aujourd'hui, témoignons de cette révélation par notre unité. Oui, de toute éternité, le Père a aimé le Fils. Et dans son amour, nous avons été élus en Christ avant la fondation du monde. En fait, l'amour ne dépend pas de ce qui est visible. Il précède tout ce qui a été créé. L'amour ne dépend pas de ce qui est visible. Il précède tout ce qui a été créé. L'amour que le Père a témoigné au Fils doit être l'expression de l'unité voulue par Dieu, comme une preuve que le Christ est en nous. Mais il nous faut aussi considérer un aspect plus difficile de cette unité, la justice. Car peut-être quelque chose dans le texte que nous avons lu est un peu passé à la trappe, mais le Seigneur dit « Père, toi qui es juste ». D'un côté, vous avez le monde et son injustice. De l'autre, ceux qui ont cru que le Père a envoyé son Fils dans le monde. Si le Père a fait justice pour nous en faisant reposer sur le Fils notre condamnation, ceux qui ne sont pas unis à Christ rendront compte de leur vie ici-bas et recevront de Dieu le salaire de leurs péchés. On oublie souvent que l'annonce de l'évangile, elle comporte deux volets. Un volet hyper positif, où on a tout à gagner, l'unité, l'amour en Dieu, d'être sauvé, mais un autre côté, l'annonce d'un châtiment réel. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Luc qu'il est venu apporter le feu. Il parle là de la réalité, la révélation de la condamnation. En conclusion, Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Il y a 2000 ans, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a prié pour notre unité. Une unité qui n'est pas de façade, mais qui a pour fondement l'amour de Dieu en Christ. Cette unité, vous en conviendrez, n'a pourtant rien de facile. Notre histoire religieuse en rend témoignage, et le cœur de l'homme pécheur a souvent contribué à l'abîmer. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a prié le Père à ce sujet. Car pour notre Maître, cette unité n'est pas un bonus facultatif, mais un témoignage à considérer. Mais non seulement à considérer, c'est un témoignage à vivre. Parce qu'il en va de l'Évangile. Pour autant, l'hypocrisie n'est pas admissible. Et sous couvert de tout accepter, certains se sont dévoyés et ont abandonné la saine doctrine. D'autres se sont écharpés sur des détails très secondaires, au détriment de ce qui compte vraiment. Ça, c'est des réalités. D'un côté, ceux qui renient l'essence même de notre unité, et pour qui donc l'unité n'est plus possible. Et de l'autre, ceux qui vont se titiller sur des points de détail, même pas secondaires, au détriment de ce qui compte vraiment. L'unité à laquelle nous sommes appelés est une unité dans la foi authentique, commune en Jésus-Christ, Fils de Dieu, envoyé par le Père pour le révéler, et avec qui nous sommes un. Cette unité est un témoignage pour que le monde croie que c'est le Père qui a bien envoyé son Fils et qu'il nous aime comme le Fils est aimé du Père. L'amour manifesté en Jésus-Christ est le fondement de l'amour que nous devons nous porter mutuellement. Dans un monde hostile, qui cherche à nous discréditer sans cesse, notre unité est un réel témoignage puissant de l'œuvre de Dieu. Ainsi, comme j'aime à le dire, les meilleures conclusions sont celles de la parole de Dieu, je ne ferai jamais mieux. Jean chapitre 15, versets 7 à 9, c'est le Seigneur qui parle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça c'est les conditions, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance, une autre condition est que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples. Mon Père sera glorifié aux yeux de tous. C'est la condition de l'unité. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Amen.